Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament. Je vais vous proposer deux courtes lectures, et puis cela nous servira, eh bien, de base à notre réflexion. Voilà, alors je vous annonce le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 15, un premier texte. Et le sujet de notre méditation, qui peut nous concerner les uns et les autres au premier plan, c'est comment être dirigé sûrement par la foi. Ça vous intéresse? Comment être avec certitude dirigé par la foi ou par l'esprit de foi? Alors je pense que ça nous interpelle tout ça, pour la bonne raison que le Seigneur ne se trompe pas, lui jamais, nous souvent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé notre message ce matin, eh bien comme je vous l'ai décliné il y a un instant. Alors donc, dans Actes chapitre 15, verset 28, je lis et je partage avec vous ces quelques mots, ils sont pas très nombreux. Acte 15, verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Non pas d'abord à nous et ensuite au Saint-Esprit en disant « Écoute, tu bénis mes prières et tu me suis. » Mais il nous a paru bon. Il a paru bon au Saint-Esprit d'abord. Priorité, l'Esprit de Dieu, qui sait tout, qui connaît tout et qui a des plans pour chacun. Il a paru bon au Saint-Esprit. Et puis qu'est-ce que nous avons dit? Amen. Ben oui. Parce que si ça plaît au Saint-Esprit, je pense que ça doit être agréé par nous aussi. Il ne doit pas y avoir de difficultés et de problèmes. Voilà pour notre première lecture. La seconde, nous allons le faire encore, ou à nouveau, dans le livre des Actes, au chapitre 27. Et là, c'est un homme que nous connaissons bien, c'est Paul, dans la tempête qu'il connaît, qu'il vit, depuis des jours et des nuits, alors qu'il se rend à Rome, et il va dire cette parole, Actes chapitre 27, verset 25. C'est pourquoi, à tous ses compagnons de voyage, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous. J'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme Dieu m'a dit. Alors rassurez-vous, je vous dis la même chose ce matin, si vous le permettez. Comment être dirigé sûrement par la foi dans les décisions de notre vie, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur importance, dans les crises majeures que nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous sommes exposés. Il y en a des mineurs, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des drôles de quart d'heure. je veux pas de la prose là, hein. Mais qu'il y a des crises majeures dans notre vie. Parfois, c'est une question de vie ou de mort, hein. Faut bien le comprendre. Et comment, dans ces moments-là, discerner la volonté de Dieu? Surtout que nous sommes troublés. Nous sommes souffrants, nous sommes ébranlés, nous sommes désorientés. Quand tout va bien, c'est bon. C'est pas difficile de prendre des décisions quand tout va bien. Elles sont là devant nous, elles sont toutes droites, c'est comme l'autoroute. Il y a que ceux qui le prennent à contresens. Enfin, ils ont des surprises au bout d'un moment. Mais toujours est-il que nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu à ce moment-là. Pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Avoir à l'intérieur de nous-mêmes la certitude d'être sur la bonne voie ou dans la bonne voie pour ne pas nous tromper Et peut-être après, de dire, mais j'avais deux possibilités. J'ai pris la mauvaise, en pensant que c'était la bonne. C'est dramatique, ça, hein? Parce que c'est fait de regret. C'est fait de, si j'avais écouté, si j'avais été un peu moins précipité, si j'avais su tout simplement, eh bien, attendre. Certitude d'être dans le bon chemin. Quel est le plan de Dieu pour moi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Peut-être pas, non? Oh, c'est secondaire pour un chrétien. Non. Plan de Dieu pour moi, quelles sont ses intentions et ses projets? Dans la généralité de ce que nous composons ce matin dans cette église, mais pour chacun d'entre nous, hein. Autant nous sommes différents physiquement, de toutes sortes de manières, autant nous avons quelque chose de bien spécifique que Dieu a prévu pour nous. C'est vrai, ses intentions, ses projets. Comment interpréter les circonstances de notre vie, qui quelquefois peuvent basculer dans un sens ou dans un autre. Comment puis-je analyser les événements qui viennent, eh bien là, quelquefois ébranler un petit peu, mais... ma façon d'être, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais des coïncidences dans tout ça? Parce que la coïncidence, c'est pas la foi, hein. Il y a des chrétiens qui marchent qu'avec la coïncidence. Ah, j'ai vu un pigeon se pocher sur le clocher de l'église, alors ça doit veut dire ceci et cela. Alors attendez, hein. Qui va faire le pigeon? Vous savez ce que c'est qu'un pigeon? Dans les deux sens du terme. Et voilà. Je reprends un peu de tonus, hein. Eh oui. Les coïncidences, il y a des chrétiens qui marchent qu'avec des coïncidences, mais je le dis, ça, c'est pas ça. Ah oui, j'ai eu ça dans cette pensée, et finalement, il y a une chose que j'ai vue là, ça doit être ça. Mais méfiez-vous, hein. Quelquefois c'est ça, mais quelquefois c'est pas ça. Alors, il faut savoir faire le tri dans ce que j'appelle le labyrinthe des questions qui m'assaillent. Parce que c'est quand ça va pas qu'il y a toutes sortes de choses. Je me pose mille et une questions, je me dis, mais où j'en suis dans tout ça? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que Dieu dit? Et puis, je me questionne de droite et gauche, je vais voir un chrétien, un autre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Vous envoyez 10, vous envoyez 100, il n'y en a pas un seul qui vous dira la même chose. Alors après, vous êtes bien embourbé, hein. Là, vous allez pouvoir ramer, hein. Excusez-moi de parler un petit peu comme ça direct, mais... Comment être sûrement conduit par la foi? On y revient, naturellement. Toutes mes impressions, est-ce qu'elles sont sauf des impressions qui sont authentiquement spirituelles? Ou est-ce qu'elles sont charnelles? Parce qu'on a beaucoup de désirs, hein. J'aimerais bien, Seigneur, ceci et cela. Nos doutes qui viennent nous percuter quelquefois, nos certitudes, nos indécisions douloureuses, je ne sais pas quoi choisir. Je suis assis entre deux chaises, et c'est vraiment la situation la plus inconfortable, surtout avec des chaises comme ça. Pas facile, hein. Alors, je vais vous donner une première règle. Vous voulez m'écouter un petit peu ce matin? Ça va? Vous êtes venu peut-être pour écouter le Seigneur. Bon, je veux simplement humblement me faire son porte-parole. Mais écoutez, c'est très important ce qu'on va dire ce matin. Vraiment important. Parce que c'est une condition de paix et de repos pour nous, pour chacun d'entre nous. La première règle, si on peut présenter les choses de cette manière, c'est notre détermination, je dis bien, notre détermination à ne rien faire ou d'entreprendre, de s'engager sans avoir reçu le feu vert de Dieu. Vous avez tous passé le code de la route ? Au minimum, vous savez ce que c'est qu'un rouge, un orange et un bleu, un vert. Ouais? Bon. Eh ben, c'est pas plus difficile que ça, mes frères et sœurs, parce que je peux vous dire qu'on se complique bien la vie. Parce que le problème, il est quand même un petit peu ailleurs. C'est de dire, eh bien, de ne rien faire. Seigneur, je partirai que quand tu me diras de partir. Je vais rester dans cette situation et je t'attends. Je t'attends. Donc, il est question de ne pas s'engager. Il n'est pas question d'entreprendre. Et ça, c'est pas facile, hein, pour chacun d'entre nous. Parce que nous marchons souvent avec des impulsions. Nous marchons avec quelquefois, quelques petites choses qui arrivent. Et sans cela, mes frères et sœurs, sans tomber dans l'immobilisme et tout simplement dans la passivité. J'attends que le ciel s'ouvre et que ça me vienne tout seul. Alors là, vous allez attendre. Parce que ce n'est pas une question de faire, c'est une question de croire. Et à partir du moment où vous allez vraiment mettre votre conscience et votre foi en Dieu, eh bien, si tu crois, tu verras. Seigneur, je veux voir et je croirai ensuite. Eh bien, ça va pas du tout. Parce que jamais Jésus nous a enseigné ça. Jamais aucun texte dans la Bible nous a enseigné ça. Il nous a enseigné, le livre nous a enseigné la foi. Et on va parler de la foi. Ah oui. C'est pas pour ça, quelqu'un qui, par exemple, est au chômage, et qui dit, voilà, bon, je fais ceci et cela, et puis j'attends que ça vienne tout seul. Ben, il faut faire des démarches. Il faut faire ce que vous pouvez, ce que vous avez les moyens de faire, et après, c'est Dieu qui va bénir, qui va vous conduire, et qui va vous donner des occasions de rencontres, et des opportunités, etc. Mais si vous dites, moi, j'attends tranquillement dans mon fauteuil, ou je m'allonge sur mon lit, et puis j'attends que le chômage, que le Seigneur me parle, ou qu'il me révèle quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche, mes frères et sœurs. C'est pas l'immobilisme, c'est pas la passivité, c'est pas tant de faire des choses à l'extérieur que de faire, et d'être, plutôt, d'être à l'intérieur dans notre cœur, dans les dispositions de la foi. Et à cela, la patience est la clé. Ça va, vous êtes patient? Il faut être patient avec moi, hein, pour m'écouter, hein. 1h30, 2h de prédication, c'est long, hein? La patience est la clé, et c'est un signe significatif de votre maturité spirituelle. Je suis désolé de le dire, mais je suis heureux de le dire aussi. Ouais, maturité spirituelle, un homme qui est capable, enfin un homme, une femme, hein, c'est la parité aujourd'hui. Mais une chose qui est certaine, c'est que je suis capable de me tenir en silence devant l'Éternel, sans broncher, et à ce moment-là, laisser l'œuvre du Saint-Esprit me donner cette patience qui n'est pas mon propre de mon caractère, je parle pour moi, et c'est un signe de maturité spirituelle. Un enfant, il veut tout tout de suite, il trépigne, il crie, il fait ceci et cela, mais un adulte, c'est pas tout à fait la même chose, quoi qu'il y ait des adultes qui ressemblent à des enfants. Mais un homme spirituel, un homme, une femme fait en Jésus-Christ, il sait attendre le secours de l'Éternel. Dixit Jérémie, dans ses lamentations. Pourtant, il s'est lamenté, hein, puisque le nom du titre du livre, c'est ça. Oui, maturité spirituelle. Dans Jacques, il nous est donné cette parole, alors que vous connaissez, mais moi, je me plais à vous les relire, parce que je pense que c'est quand même assez essentiel. Dans Jacques, au chapitre 1er, et au verset 1 à 4, chapitre 1, verset 4, il est dit ceci, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Parfait. Seigneur, tu me vois déjà parfait? Moi, je me sens vraiment pas parfait, hein? Mais que la patience accomplisse son œuvre. Et c'est pour ça que Dieu nous fait attendre quelquefois. Il pourrait nous répondre à l'instant, instanté, dans l'instant. Mais quelquefois, il nous fait attendre parce qu'il développe en parallèle avec notre besoin urgent soit-il, il développe en parallèle quelque chose qui va nous former dans notre identité spirituelle. Mais oui, je comprends pas, Seigneur, pourquoi tu me fais attendre? Seigneur nous susurre à un moment donné, mais attends, moi la chose elle est prête pour toi, elle est prête depuis longtemps, elle t'attend depuis longtemps, mais il y a une chose que je voudrais que tu apprennes, c'est d'être patient et que tu saches attendre, alors tu verras combien la bénédiction sera encore plus grande, parce qu'il y aura on pourrait dire d'une pierre, il y en aura deux coups. C'est-à-dire que il va y avoir ce que tu vas recevoir, ce que tu attends, après quoi tu pleures. Mais tu vas avoir aussi un développement de ta vie spirituelle. Ouais. Être patient veut dire être vidé de toute activité propre. Oh, oh. C'est dur, hein. Pour des gens comme l'apôtre Pierre, c'était dur. Ah ouais, il était toujours le premier à foncer, et quelquefois il s'est retrouvé devant, il s'est fait des bosses, hein. Ah ouais? Mais quelquefois c'est aussi notre homme et femme, c'est aussi notre tempérament, hein. Quelquefois nous fonçons et puis nous apercevons que ben, ça fait mal parce que on n'a pas attendu ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire, hein. Ça fait partie des objets de votre prière prochainement, et de nos prières. Seigneur, rends-moi, rends-moi, donne-moi la foi, Seigneur. Mais la foi, c'est une école. C'est un don de Dieu. C'est vrai, c'est un don de Dieu, mais ça s'apprend, de toute façon. Donc, je disais que c'était être vidé de toute activité propre et ne pas entreprendre au hasard. Comprenez ce geste, hein? Voilà. Vendredi dernier, nous avions une réunion d'évangélisation. Et puis, je disais, mais je le rappelle aujourd'hui, je le rappelle, parce que il y en a qui ont fait l'expérience, et ça, ça les a pas rassurés. Hein. Ceux qui ont l'habitude d'ouvrir la Bible, en sachant pas quel texte ils vont prendre ce matin-là, et « Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, de lire le texte de la journée. » Et ils tombent sur l'histoire d'Ézéchias, où Dieu lui dit « Prépare-toi parce que tu vas mourir. » Et c'est écrit, hein? Ah, je peux vous dire que ça vous donne le moral pour la journée. Ça, c'est quelque chose. Non. N'entreprenez rien au hasard, c'est tout à fait aux antipodes de la foi. En pensant que le hasard, c'est la volonté de Dieu. On parlait de coïncidence tout à l'heure, c'est pareil. C'est humain, c'est charnel, mais c'est pas spirituel. C'est prendre, mes frères et sœurs, le dessus sur la hâte. On est dans un monde de fous. Enfin, c'est vrai, franchement. Non mais c'est vrai, c'est terrible hein, le monde dans lequel on est. Hein. Tout va vite, tout doit aller vite et de plus en plus vite. Hein. Mais on doit, nous chrétiens, eh bien prendre finalement l'ascendant sur la hâte ambiante et ne pas décider dans l'instant T. C'est-à-dire que voilà, j'ai ceci et puis voilà, ben, je prends la décision immédiatement. Quand ce sont des choses indifférentes de la vie pour un achat d'une cravate pour les messieurs ou je ne sais pas, d'une robe, bon, vous avez, c'est vrai, bon, ça vous donne, vous avez un coup de cœur, et bien vous faites, ça c'est sûr, bon, c'est pas grave. Mais quand il s'agit des choses qui sont éminemment importantes dans notre vie, des choix importants, alors là c'est une autre affaire, c'est sûr, hein. Ou alors nous avons des réactions de dépit en disant, ben, puisque ça vient pas, je vais faire ceci. Ou alors des réactions d'exaltation et d'enthousiasme, et on se dit, ben, c'est merveilleux et formidable, et je choisis maintenant. Il y a les deux. J'essaie dans mes prédications d'être équilibré, vous comprenez? Parce que moi, je sais que Jésus est vraiment le parfait équilibre. Et l'Église doit être équilibrée. Et nous devons, les uns et les autres, être équilibrés dans notre vie spirituelle. C'est normal. C'est refuser de se laisser entraîner. C'est-à-dire emporter précipitamment dans telle voie supposée de Dieu, que nous croyons être la voie de Dieu. Parce que bon, voilà, il y a quelque chose qui nous a un petit peu titillé au niveau sentimental, affectif, cérébralement, intellectuellement, on se dit, bah, ça peut être que ça. Sans avoir une assurance de repos et de paix intérieure. C'est important, mes frères, le repos et la paix intérieure. Et c'est ça ce qui fait le mal. Parce que quelquefois, nous marchons, nous nous engageons, nous prenons, nous décidons. Et finalement, eh bien, après avoir pris la décision, nous sommes encore dans la confusion et quelquefois nous disons, mais est-ce que j'ai bien fait? La foi, c'est le contraire, naturellement. Je vais vous parler de quelque chose qui fait partie d'un point de doctrine important dans la Bible. Vous savez que dans 1 Corinthiens, il est question des dons spirituels. Il y en a combien? 9. 9 en 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration, c'est les dons vocaux, parler en langue, interprétation et prophétie. Il y a les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. 3, ça fait 6, il en reste 3. Les 3 autres, c'est les dons de puissance. Je dis bien dons de puissance. La foi, qu'est-ce que c'est? Une puissance. La foi. Il y a le don des miracles. Il y a le don des guérisons. Et il y a le don de foi. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur ce que pouvait être le don de foi? Je dis pas le don de la foi, le don de foi. Eh bien, on va le voir tout de suite. C'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, quand Paul nous dit « Rassurez-vous, car je sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Vous savez, quand il est dans la tempête, j'ai la certitude que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Rassurez-vous, naturellement. Alors, le don de foi, c'est la foi miraculeuse. Ça vous va? C'est bien la foi miraculeuse. Vous voulez voir des miracles? Alors, attendez comment vous allez les prendre. La foi miraculeuse qui est communiquée surnaturellement. Et je souligne cet adverbe, surnaturellement par le Saint-Esprit. C'est pas nos cogitations, c'est pas nos déductions, nos analyses, notre expérience, ceci, cela, etc., qui font partie de notre humanité, c'est donné par le Saint-Esprit. Dans l'urgence et dans un état critique. Je vais vous citer deux ou trois cas. Peut-être que quelqu'un vit un moment vraiment très difficile. Urgence, un état critique. Le don de foi est une certitude divine, ça vient d'en haut, qui va au-delà de toute espérance. C'est comme ça que Abraham, dans le sacrifice de son fils sur le mont Morija, il a cru contre toute espérance. Et quand Isaac est né, il a cru contre toute espérance. Ça va au-delà, finalement, de toute espérance naturelle, humaine et logique. Oui, c'est déconcertant. Le don de foi nous met en présence que nous pouvons être sûrs que quelque chose va arriver, va se produire ou avoir lieu dans des circonstances, dans des événements ou conditions matérielles, physiques, qui ne le permettent pas. L'impossible, par la foi, devient possible. L'impossible devient possible. Les conditions dans lesquelles vous êtes, si vous passez par ces moments critiques, est terrible. Eh bien, vous pouvez regarder à droite et à gauche, en bas, en haut et tout ça, tout ce que vous pouvez faire. Les conditions dans lesquelles vous êtes, ce n'est pas possible. Ça ne le permet pas, question matérielle ou question physique ou autre chose. Mais par contre, la chose est au fond de votre cœur. Et vous savez qu'elle va arriver, qu'elle va se produire, qu'elle va avoir lieu. Vous n'avez jamais fait cette expérience ? Ô combien, certains d'entre nous, et peut-être la plus grande partie de vous, nous avons fait cette expérience. Je ne vous dirai pas que nous la faisons tous les jours. Nous la faisons par exception quelquefois dans la vie. Quelquefois dans la vie. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs extraordinaires de ça. D'ailleurs, c'est ce qui me donne d'être ce que je suis aujourd'hui, parce que ma foi a été fondée sur quelque chose où je sais que Dieu est vivant. Cette foi surnaturelle, à corrobore à ce que je vous ai dit, elle est passive. Elle fait rien. Elle est passive. Et elle s'opère dans un total repos, tranquillité d'âme, de pensée et d'esprit. La dolce vita. Je suis tranquille. Mais c'est quand même le reflet de nos cantiques que nous chantons, hein. Vous avez prêté attention aux paroles de cantiques quelquefois, hein? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines, merci, hein, c'est bien, c'est juste, hein, parce que je t'ai rien dit. Hein. Et c'est ça. Elle attend dans la paix. Et je dirais qu'il y a quelque chose encore de plus beau, elle attend dans la joie. Elle tressaille ce don de foi. Il nous fait tressaillir à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand même le monde entier, quand même les chrétiens dans l'église nous diraient « Alain, tu es fou, mais faut pas croire à des choses pareilles. C'est complètement dingue ton histoire. » Excusez-moi pour le mot dingue, hein, mais bon, ça me concerne. Hein. Bon, je dis pas ça des autres, je dis ça de moi. On nous dirait ça. Hein. Eh bien, quand bien même les montagnes, tout tremblerait, à ce moment-là, celui qui a la foi, le don de foi, le don surnaturel de foi, il ne bouge pas, il ne dit rien. Il n'a même pas besoin de se défendre. Il attend. Il attend dans la paix et la joie l'extraordinaire. C'est pas des petites mesures, hein, l'extraordinaire. Alors j'ajoute ceci, pour pas qu'il y ait de confusion. Il y a trois dimensions à la foi. Il y a la foi qui sauve. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je suis sauvé. Il a pardonné mes péchés, j'ai la vie éternelle. C'est la foi qui sauve, c'est la foi salvatrice, la foi du salut. Il y a la foi qui naît ensuite par rapport à la vie de l'Esprit à l'intérieur de nous-mêmes, et qui plus est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais nés de nouveau, c'est la foi fruit. Vous savez, vous l'avez pas entendu parler, la foi fruit. Quand il est question du figuier qui n'a pas de fruit, tout ça, c'est cette confiance, c'est cette foi, finalement, qui est faite non pas pour l'extraordinaire, mais qui est faite pour le caractère. On pourrait la traduire par le mot fidélité. La foi fruit, la foi qui sauve, la foi fruit, tout simplement. Je vous donne deux exemples, parce que je pourrais en multiplier, il y en a des dizaines dans la Bible. Quand Pierre et Jean étaient à la porte du temple de Jérusalem et qu'il a rencontré le boiteux. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et au nom de Jésus, il prend la main et il fait lever. C'est la foi miraculeuse. La foi miraculeuse. Quand Daniel, dans la fosse aux lions, Ancien Testament, on le précipite, il va se retrouver avec des fauves auxquels on n'a pas donné à manger depuis un petit bout de temps. Alors voilà, on leur envoie un repas. Et ce repas, c'est Daniel. On l'envoie pas mort, on l'envoie vivant au milieu d'eux. Et il nous est dit qu'à un moment donné, quand la parole nous dit que l'on a regardé, on a posé le regard dans le fond, les lions étaient à ses pieds et lui était dans une tranquillité, une paix. Il n'a pas essayé de les égorger, il n'a pas essayé de leur fermer la gueule, il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit, de se battre contre les lions. Il est resté tranquille et les lions étaient à ses côtés, sans lui faire aucun mal. C'est la foi surnaturelle de Dieu qui nous permet de surmonter les moments les plus difficiles, les plus critiques, les plus terribles de notre vie. Ça vous donne pas envie? Allez donc, hein, c'est quelque chose, hein, franchement. Il y a une grande différence maintenant, parce que c'est un enseignement ce matin, hein, c'est pas une exhortation, mais c'est une exhortation en même temps, mais c'est un enseignement. Il y a une grande différence à rappeler entre la conduite divine des croyants dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Bah oui. Croyants, chrétiens, les juifs, les croyants, les juifs d'aujourd'hui. Une grande différence. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des visions. Il a utilisé des rêves. Il a utilisé des songes. Il a utilisé des apparitions. Les christophanies, c'est les apparitions de l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Il y a des voix entendues. Et ces héros d'hier qui nous enthousiasment, mais c'est vrai, il y a de quoi. Eh bien, ils recevaient, on va le découvrir, une aptitude à entendre une voix extérieure. Je dis bien extérieure. Vous savez ce que ça veut dire? Là, on est à l'intérieur. Dans la rue, c'est l'extérieur. Une voix extérieure, soit par des prophètes, des hommes de foi, enfin des gens qui étaient habilités, qui étaient choisis par Dieu. Et voilà, il allait vers l'un, et ces hommes dictaient et dirigeaient la vie. Et c'était pas la généralité, hein. Voilà, on le voit avec Samuel, on le voit avec d'autres hommes, hein, Élie, etc., etc. C'était extérieur, une ouïe sensible pour être guidé, pour ceux qui voulaient être guidés naturellement. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ça nous concerne, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de songe, qu'il n'y a pas de vision, etc., etc. Mais le principe, je suis en train de le mettre devant nous le rappeler, le principe maintenant du Nouveau Testament, si nous voulons faire l'inventaire, pour nous le rappeler et nous rafraîchir un peu la mémoire, si nous voulons faire l'inventaire des merveilleuses possibilités offertes pour nous aujourd'hui, vous verrez qu'on a plus que dans l'Ancien Testament. Un prophète qui passe, un Samuel qui parle, un Jérémie qui est en train de donner eh bien là certaines directives, qui va dicter, etc., etc. Eh bien, nous avons plus, mes frères, et c'est pas la peine de retourner dans l'Ancien Testament, alors que nous avons plus dans le Nouveau, puisque l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Et ce que nous allons voir en troisième lieu, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais nous avons une dimension à la patrie céleste. Alors là, je peux vous dire qu'on connaîtra tout. Chaque croyant de la Nouvelle Alliance expérimente trois choses. C'est d'abord le témoignage intérieur. Nous ne sommes plus sur le parvis comme dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le lieu très saint aujourd'hui. Ça vous va? Vous rendez compte de la position que vous avez? Et en plus, vous êtes dans le lieu très saint, mais vous êtes le temple. Vous êtes tout à la fois. Donc, le témoignage intérieur par l'habitation du Saint-Esprit en nous. Ça, je tiens, avant que je disparaisse, que vous le compreniez bien. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous, il est en nous. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Là, la parole de Dieu, et on pourrait dire, peut-être, si vous me permettez les expressions, mais je trouve les mots pour que ça puisse véritablement être cohérent, c'est le code, c'est la mesure et le cadre. Le cadre révélé. Lisez la Bible. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Votre référence, c'est Jésus-Christ, c'est la foi dans la grâce. Sans pour autant oublier l'Ancien Testament, qui est préparatoire, c'était la projection de la foi à venir en passant par la loi. Bon, j'essaie de m'expliquer comme je peux, hein, c'est pas toujours facile. Alors, puisque le Saint-Esprit, Dieu nous parle à l'intérieur, eh bien, nous possédons la pensée de Christ en nous. Ouais, ben oui, je parle toujours deux fois. La pensée de Christ en nous, ben c'est facile. Nous prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il est donné cette parole, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Voilà ce que je trouve. Il est dit à ce moment-là, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Mes frères et sœurs, dans votre recherche de foi, de solution à vos problèmes, vous avez la pensée de Christ si vous restez dans le Nouveau Testament. Que vous vous nourrissiez, que vous étayiez peut-être dans l'Ancien Testament, je veux bien croire, avec des exemples. Mais aujourd'hui, ce que les autres n'avaient pas, ils n'avaient pas la pensée de Christ, hein, les Juifs de l'Ancien Testament. Ils avaient des révélations ponctuelles. Nous l'avons en permanence. Nous possédons la pensée de Christ et la plénitude du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Ouais. Il nous est dit dans 1 Jean, je me souviens plus du chapitre, que nous avons reçu l'onction qui nous enseigne toutes choses. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons la parole écrite à méditer. Et je peux vous dire que vous avez une grâce formidable par rapport à tous les premiers chrétiens qui, pendant 15 siècles, n'avaient pas la parole. C'était une parole orale, transmise de bouche à oreille, en commençant par, finalement, eh bien, les premiers siècles. Mais il a fallu attendre, et je le répète, parce que c'est de l'histoire, et on ne peut pas faire un pas sur l'histoire, que vous aimiez l'histoire ou pas, on ne peut pas faire un pas. Il a fallu attendre la vulgarisation de l'imprimerie sous Gutenberg pour avoir des bibles en main. Et encore, il y avait que les riches qui pouvaient se les payer. Mais nous, dans notre 21e siècle, mais les bibles, vous en avez à 3-4 euros. Allez, je fais de la publicité, achetez, donnez des bibles. Eh oui! Alors, une parole à méditer. Il nous est dit qu'il y a des hommes qui s'appelaient les Béréens. Et comme Paul, le grand apôtre Paul, qu'on mettait pas en doute, parce que vraiment, c'était un géant de la foi. Eh bien, Paul, eh bien, était confronté finalement, eh bien, non pas à la critique, mais une critique positive. Il a vu les Béréens parce que c'était des hommes qui étudiaient tous les jours les Écritures et qui constataient et qui examinaient pour savoir ce que Paul disait, si c'était vrai. Eh ben, soyez des Béréens, hein. Même si vous n'avez pas de béret. Mais toujours est-il que, voilà. Parce que la parole de Dieu, elle est inspirée pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous exhorter, etc., etc. Et cela est disponible en permanence. Quelle chance nous avons de vivre dans le temps dans lequel nous vivons. Vous avez la Bible papier. Vous avez la Bible sur Internet. Vous avez toutes sortes de traductions. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous... Si vous demandez à Dieu de vous conduire, il va vous garder des erreurs et des faux docteurs, des faux apôtres et des faux prophètes. Il ne s'agit pas d'entendre une voix audible, transcendante, comme Élie ou les prophètes dont nous avons parlé tout à l'heure, mais d'attendre. Ah, vous avez vu les deux verbes? Entendre pour donner la foi, on est d'accord. Mais il ne s'agit pas d'entendre et de dire, eh bien moi ce soir, donc dimanche soir, je vais me mettre en prière toute la nuit, ça vous regarde, hein, demain matin, Seigneur, tu me parles, avant demain matin, avant que je chaille au travail, tu... Et si vous attendez ça, vous allez peut-être attendre longtemps, mes frères et sœurs, parce que c'est vous qui dirigez le Seigneur et c'est à lui de vous diriger. Quelquefois, on a dit au Seigneur, écoute, hein, je veux ceci et cela. Moi, j'ai entendu des prières dans les églises où je suis passé. Je peux vous dire que, quelquefois, moi, ça m'a sidéré, j'étais pétrifié de dire, eh bien, Seigneur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, parce que on a pensé que c'était ta volonté, tu devais le faire. Moi, je me dis, mais pour qui ils se prennent? C'est encore Dieu qui est souverain. C'est lui qui dirige les choses. Et il sait encore mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'entendre une voix audible, hein, qui déchire les cieux, vous savez, parce que le murmure d'Élie, hein, c'était pas ni dans le tonnerre, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, c'était un souffle doux et léger. Et quand on est dans le bruit, on n'entend rien. Et quand on est tranquille, attendre paisiblement dans la paix de Dieu, là Dieu nous parle. Mais d'attendre dans le calme et ainsi discerner la voix intérieure. Il a semblé bon au Saint-Esprit et, trois petits points, à nous-mêmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Laquelle voie intérieure est à la base de toute révélation, du chemin à suivre, et qui sera ensuite confirmée. Si vous attendez des confirmations avant, vous ne les aurez pas. Qui confirmera ensuite dans l'expérience, soit par une parole d'inspiration, le parler en langue avec son interprétation, ou soit une prophétie. C'est la voix intérieure avant la confirmation par les dons spirituels, mes frères et sœurs. Quelquefois, on a entendu des choses horribles dans les églises, où quelqu'un, pas toujours au fait de la situation, a donné des prophéties qui étaient en dehors de ce que doit être une prophétie, parce qu'elle est faite pour exhorter, pour enseigner et pour consoler. Mais des prophéties qui dirigent. Le Seigneur te demande de faire ceci et cela. Le Seigneur te conduit ici et cela, etc., etc. Ou alors, des appels peut-être à la repentance sans offrir ensuite la grâce en même temps. Eh bien, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, je suis pas d'accord avec ça. Vous le savez. Moi, vous n'avez pas voté pour moi aux prochaines élections. Hein. Ça, c'est clair. Enfin, peu importe, je ne me présente pas. Mais une chose qui est certaine, mes frères et sœurs, faut que ça rentre dans nos églises charismatiques. On a trop raconté d'histoires et de choses où les gens ont cru. C'est comme ça que les sectes arrivent. C'est comme ça que les faux prophètes se donnent, ils se donnent du crédit. On a entendu des choses. Ou alors ils viennent à vous et puis ils vous imposent les mains en disant, voilà, le Seigneur m'a parlé pour toi. Mais comment le Seigneur peut parler à quelqu'un d'autre pour moi? D'abord, il me parle à moi d'abord. Et sans avoir confirmation d'un uluberlu ou d'un, un excentrique qui se pense avoir toutes sortes de choses et qui se prend pour Dieu. On a vu des choses terribles, hein, dans les mariages, par exemple. Il y a des gens qui sont venus voir un jeune homme ou une jeune fille en disant, c'est celui-ci ou celle-ci, tu dois te marier avec eux. Je l'ai entendu encore il n'y a pas longtemps. Pas dans cette église, mais dans une autre. Et vous savez comment ça s'est terminé? Par un fiasco. Ah, il est inspiré, hein. C'est pour lui qui se marie avec eux. C'est complètement débile, mes frères et sœurs. Je parle librement, hein. Surtout, me faites pas de mal. Non, mais c'est vrai. Il faut garder l'équilibre et on a suffisamment d'éléments pour savoir discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça, c'est quelque chose. Mes frères et sœurs, quand il y a des dons spirituels, je le rappelle, exhorter, consoler et enseigner, mais pas diriger ni dicter. On a eu quelquefois dans le monde pastoral, il y en avait des vrais, et il y en a des vrais, et il y en a encore des vrais aujourd'hui, qui se servaient de l'Ancien Testament pour faire marcher les gens. Mais on n'est plus dans cette époque, c'est fini, terminé. Où est la grâce? Où est la foi dans cette affaire? C'est vraiment manquer de responsabiliser les chrétiens auxquels on s'adresse. Moi, je pense que vous êtes des adultes. Et de dire, ben voilà, monsieur le pasteur est prophète, il est ceci et cela. Mais non, on n'est pas prophète parce que c'est pas un don permanent. On n'est pas prophète comme dans l'Ancien Testament. Je voudrais vous dire que je m'appelle Alain, je suis pas Élie. Hein? Maintenant, j'aimerais bien monter au ciel dans un char de feu. Priez pour ça. Toute autre manifestation extérieure, mes frères, méfions-nous, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, j'ai été combien de fois, sans, je veux pas dire, hein, mais combien de fois interpellé par le Seigneur, ne serait-ce que pour venir être pasteur à Saint-Nazaire, parce qu'on l'a vécu, hein, je peux vous dire, et puis d'une manière tout à fait forte, alors que je tenais pas debout. Hein. Bon, C'était bien parce que les conditions étaient réunies pour pas que je fasse quoi que ce soit. Mais une chose qui est certaine, qu'il y avait déjà dans mon cœur quelque chose qui a été confirmé par au moins 5-6 personnes sur l'espace d'un an et demi qui ne savaient rien de ma situation et la décision que nous avions prise de quitter l'église où nous étions, et qui point par point, mais je l'avais déjà dans mon cœur, et quand j'ai entendu ce frère et cette sœur, c'était surtout des sœurs, parce qu'elles parlent beaucoup, excusez-moi, mais je fais que des blagues ce matin, mais toujours est-il que c'était sans qu'elles ne sachent des paroles de connaissance. Parole de connaissance, vous savez ce que c'est la parole de connaissance? C'est quelque chose qui est caché, qui est révélé surnaturellement. C'est le Seigneur qui donne véritablement la pensée dans cette affaire. Et moi j'ai dit, et nous avons dit avec Myriam, on dit mais c'est ça, mais comment le savent-ils? Parce qu'il y a une conduite, et je me suis pas précipité parce que j'ai mis 5 ans avant de partir de l'église dans laquelle j'étais, parce que, voilà, on me retenait un petit peu, voilà, tout simplement. Mais c'est pour dire que nous on avait l'envie. Mais le Seigneur savait, et faut être patient mes frères et sœurs avant de recevoir, et vous allez voir combien c'est beau et c'est grand de voir comment Dieu agit. C'est formidable. Le Saint-Esprit dirige avec douceur, et pas avec violence et brutalité, comme quelquefois on l'a entendu à travers des dons spirituels. Ouf, on sent qu'il y a quelque chose là, qui est terrible, et renforce la certitude dans la ligne des plans divins qui nous sont préparés spécifiquement pour nous. Ça sera peut-être différent pour un autre, etc. Et ils sont préparés, ces plans, avec bienveillance. Le contraire, c'est la malveillance. Mais la bienveillance de Dieu signifie que notre esprit, à ce moment-là, notre cœur, nos pensées, en paix, sont dociles et ouvertes. Il a cru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Mais on est en accord avec le Saint-Esprit à ce moment-là. On se pose aucune question. C'est ce que les apôtres disaient à ce moment-là. C'est une sorte de guidage. Vous savez ce que c'est? Vous avez tous des... Comment on appelle? Des GPS, hein, justement, je l'ai entendu. Il y en a qui sont vraiment au fait de la situation. Moi, j'en ai un, mais je m'en sers pas parce que c'est Myriam qui me conduit, elle connaît tous les panneaux, etc. Et on n'est jamais tombé dans le panneau. Hein. J'appellerais ça un guidage coopératif. C'est-à-dire que c'est pas moi, mais c'est moi qui veux que le Seigneur prenne toute la place. Coopératif en interaction avec la pensée de mon Dieu et la nôtre, tout simplement. Une dernière petite chose, ça va encore vous? C'est bon? Bon. Une dernière petite explication. Qu'est-ce que la foi agréable à Dieu? On va rappeler la définition d'abord. Je prêche, mais je prêche pas en dehors de la parole. Et j'y tiens. Dans Hébreux, chapitre 11, vous connaissez? Chapitre 11, il est question de quelque chose qui nous parle et qui nous donne des principes. Le verset 1, « Or la foi est une ferme », verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je ne les vois pas, mais je sais que je vais les voir, parce que je n'ai pas mis la charrue devant les bœufs, je mets d'abord la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ou la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu. Et le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il est le porteur, qu'il est celui qui ouvre son cœur et ses mains pour nous donner la bénédiction en abondance, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et de quelle manière le cherchons-nous? Pas dans les manières que j'ai décriées il y a un instant, mais dans cette patience, dans cette attente, cette coopération du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Sachez une chose, que toute réponse à la prière de la foi, que toute réponse nous attend déjà dans l'invisible. N'allez pas penser que le Seigneur, parce que lui avons demandé une chose, il va bricoler au dernier moment. Il va faire de l'improvisation. Ah, Pierre ou Paul, il a besoin de ceci et cela, alors il faut que je le fabrique. La réponse. Mais non, elle est déjà là, la réponse. Dans le ciel, il y a des trésors qui vous attendent. Cependant, et c'est peut-être aussi un autre aspect des choses qu'il ne faut pas oublier, il y a souvent des interférences dissuasives. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'ennemi qui s'oppose à la réception de l'exaucement. Il a entendu que nous avons prié notre Père Céleste, prié au nom de Jésus-Christ dans la foi, et lui il se dit tiens, il s'entremêle, il s'interpose, il va essayer de faire exploser le système, si je peux dire, hein. Si vous permettez, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça, pour que vous ne receviez pas. Il est nécessaire de veiller à ceci, c'est que dans cette attente, quand l'exaucement n'est pas encore arrivé, nos désirs, nos idées, nos pensées, nos rêves et autres qui pourraient éventuellement parasiter un tout petit peu d'une manière très innocente et bien notre foi, peuvent obscurcir et détourner les exaucements ou tout simplement les faire avorter. C'est pour ça qu'il faut prier « Délivre-nous du malin » parce que lui, il est là. Il est comme le serpent qui s'infiltre ou il est comme le lion rugissant cherchant de qui il pourra ravir la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, c'est encore une autre façon de découvrir la nature spirituelle des choses. Moi, je suis sur la terre, mon Père Céleste, il est au ciel, et il y en a un qui se balade un petit peu dans tout l'espace là pour essayer de... Ben, c'est l'histoire de Daniel. Est-ce que ça peut vous rassurer si je vous dis que Daniel a prié, il a attendu 21 jours, et dans un combat terrible, puisqu'il nous est dit que là, il jeûnait et priait, et il était, mais alors, vraiment comme s'il était mort, hein. C'était un conflit spirituel, mes frères et sœurs, de grande envergure. Ouais. Eh bien, quelquefois, nous attendons, parce que finalement, Dieu a entendu nos prières, il veut nous exaucer, mais il y en a un qui s'interpose et qui dit, la bénédiction, tu l'auras pas. Eh bien, vous savez, il est dit de lui résister avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Faut pas oublier tout ça. Ça fait partie, justement, des choses qui sont importantes, naturellement. Hein. Et là, il faut absolument que découvrir la volonté de Dieu, n'est pas de faire le vide de la pensée, l'abstraction. On n'est pas des bouddhistes ou des hindouistes, vide de la pensée, vous comprenez? Moi, je fais pas de yoga, si ça peut vous rassurer. Je fais pas de méditation transcendantale pour me vider, vous comprenez? Non. Mais de ne pas se cramponner ou de crisper anxieusement sur notre vie propre. Moi, je crois qu'une grande partie des choses que je peux constater dans l'Église, dans les églises, c'est que les chrétiens, authentiquement, sont désireux de voir la grâce de Dieu se manifester dans leur vie, d'avoir des exaucements de prière. Mais ils sont fébriles, ils sont crispés, ils se cramponnent. Mais si le Seigneur n'avait pas entendu, ne multipliez pas de vaines paroles. Si le Seigneur, ne voulait pas me donner, mais le Seigneur, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il va vous donner comme il convient de vous donner, parce que c'est lui est agréable de vous bénir. Mais à ce moment-là, je commence à me recroqueviller sur moi-même, je crispe, je me démoralise, etc., etc. Il faut que le Seigneur nous délivre de tout cela. Déchargez-vous sur lui de tout fardeau parce que lui-même prend soin de vous et ne vous crispez pas. C'est ce qui vous rend malade, c'est ce qui vous rend malheureux et c'est ce qui empêche finalement et ce qui retarde la bénédiction de Dieu. C'est mourir à nous-mêmes. Seigneur, on va le voir, je le dis. Le secret, le voici, pour mourir à nous-mêmes. Quand on est dans des situations critiques, c'est tout simplement de dire, Seigneur, quand, où et comment tu veux. C'est pas trop compliqué, là? Comment tu veux, la manière dont tu vas t'y prendre, c'est ta façon. Où tu veux, dans ce lieu-là ou dans un autre lieu, c'est pas mon problème. Et également, quand tu veux, quand ça sera ton heure. Et je crois qu'on a fait des belles expériences dans notre vie parce que il a fallu quelquefois, moi je parle aussi de ce que j'ai vécu, quelquefois il m'a fallu attendre que je comprenne le quand, le comment et le où de Dieu. Et un jour, je me souviens, c'est vieux ça, hein, parce que je suis vieux, mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que je me souviens qu'à partir du moment où j'ai combattu, ce que je vous raconte, je l'ai pas appris dans une faculté de théologie ou dans une école biblique. C'est parce qu'on l'a vécu et je vous rapporte tout simplement l'expérience cohérente, j'espère. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, suis battu pour ceci et cela. Et le Seigneur m'a montré dans mon cœur, il m'a dit, écoute, quand tu m'auras compris que c'est où je veux, quand je veux et comment je veux, alors à ce moment-là, et c'est vrai que la situation s'est complètement défaite immédiatement après. J'ai compris. La comprenette difficilette, mais j'ai compris quand même. Ouais. Ne confondons pas nos pensées, nos aspirations et nos désirs personnels avec ce que nous interprétons à notre façon. Nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. La différence, elle est ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2, toujours Corinthiens, parce que bon, Paul, il en connaissait quand même un rayon. Hein. Et chapitre 2, au verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme naturel, le chrétien naturel et charnel, car elles sont une folie pour lui, quelquefois, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, mes frères et sœurs. Ça, c'est important. Que le charnel se taise. Et pourtant, il est bien vivant, je peux vous dire. Et qu'il se taise pour laisser la voix de l'Esprit me parler, de la manière dont Dieu le définira. Il faut des directions claires, de bon sens et cohérentes. Il faut que ça cadre véritablement dans le bon sens. Le bon sens, il a cru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. On y revient toujours. Pour être spirituellement guidé, nécessité que les circonstances et l'évidence indiquent la même direction. Si vous avez quelque chose dans ce sens et que c'est le contraire qui se produit, il y a un problème, il faut se poser la question naturellement. Alors toute confirmation sera le signe de la paix, du repos, qui bannit le doute et les hésitations, l'indécision, la crainte et la contrainte. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Vous ne m'en voulez pas ? Bon, je suis rassuré. On va prier maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est petitement et manifestement, modestement, Seigneur, que nous voulons véritablement, Père éternel, enseigner ta parole. Nous croyons que le modèle, c'est pas un homme, c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, hein, c'est pas un évangéliste, hein, c'est même pas un docteur au niveau de la dimension spirituelle. Le modèle pour chacun d'entre nous, c'est Jésus-Christ. Équilibre, la patience, la bonté, la fidélité, ça c'est le don, les fruits de l'Esprit. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et puis quand, en effet, quant au don spirituel, parole de foi, tu as bien voulu, Seigneur, ce matin, que nous puissions réfléchir sur la question. Oui, Seigneur, qu'est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai reçu quelque chose ? Eh bien, je dois penser que, même si je l'ai reçu, je dois faire comme si je ne l'avais pas reçu, dans ce sens que je ne dois pas m'enorgueillir. Quand tu nous dis que finalement, pour les serviteurs, eh bien, que ce n'est pas nous, en effet, qui sommes en avant, mais c'est Christ et nous sommes tout simplement les agents et les communicateurs, Seigneur, de la bénédiction de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et de ne pas prétendre que nous sommes pasteurs, ceci, cela, etc., etc. Nous voulons te demander que tu nous donnes vraiment l'humilité profonde qui sied aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons maintenant marcher dans cette parole toute simple où tu nous dis « Il a cru bon au Saint-Esprit ». Eh bien que nous nous pouvions dire eh bien tout simplement « Amen, Seigneur ». Parce que si il a cru bon au Saint-Esprit, pour nous qui voulons grandir spirituellement, ça sera bon pour nous. Ça sera bon pour l'Église. Ça sera bon pour le monde. Te remercions. Oui, nous voulons, Seigneur, nous rassurer. Parce que nous pouvons dire avec certitude que nous croyons que tout ce que Dieu nous dit, eh bien, il va l'accomplir. Seigneur, dans le nom de Jésus, déconnecte-nous un peu de nous-mêmes, de nos crispations, de nos inquiétudes, de nos tourments, de toutes les choses que nous nous mettons dans la tête, nos pensées qui s'agitent, nos guerres, nos batailles, toutes ces choses qui nous font tellement de mal et qui ne font que repousser ou retarder l'exaucement. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Parce que je crois qu'à travers cette école, qui n'est pas seulement de recevoir une grande chose, un miracle, surnaturel, extraordinaire, c'est pas ça le principal. C'est qu'à travers tout cela, eh bien, nous changeons intérieurement. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Moi, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, de visiter chacun et chacune, et de leur donner, Seigneur, en effet, Père éternel, de prier, parce qu'il y a peut-être besoin de délivrance ce matin. Des délivrances physiques de la maladie, de la douleur, de la souffrance. Il y a peut-être besoin de délivrance de l'âme, des problèmes qui ne sont pas réglés, des pardons qui n'ont pas été donnés, ou qui sont refusés, ou alors encore peut-être des souffrances de l'enfance, des fautes que nous avons commises, des erreurs que nous avons commises, mais le Seigneur est venu pour nous délivrer de tout cela. Mais Seigneur, nous devons lâcher prise, et nous devons prendre la victoire par la foi, uniquement par la foi. Passe dans les rangs maintenant, s'il te plaît. Fais grâce, Seigneur. Il y a des pleurs, il y a des chagrins, il y a des choses, Seigneur, qui sont terribles. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, n'es-tu pas venu pour les cœurs brisés, pour délivrer ceux qui sont captifs, pour libérer, Seigneur, les prisonniers, et pour nous donner de rentrer dans une année de grâce. Seigneur, passe maintenant. Moi, je sens que le Saint-Esprit, que ta parole est là, en tous les cas. Que je sente ou que je chante pas, c'est pas important. Mais je sais, Seigneur, qu'il y a certainement une œuvre qui se fait. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes la tête courbée, passe dans les rangs, visite. Et ce n'est pas, Seigneur, à nous de faire les choses, mais chacun d'entre nous, nous devons nous présenter devant toi en disant, Seigneur, eh bien, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Fais grandir, accroisse ma foi, Seigneur, pour prendre la victoire sur moi-même d'abord avant tout. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.